À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chanson,
gastronomie.
Bonsoir Alain, bonsoir Dominique, bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent, bonsoir Dominique, bonsoir Jean.
Bonsoir à tous.
Voilà, l'art de, alors, de la contraction, tu as raison.
Alors Alain.
Alors Alain.
Quoi de nouveau en
quoi
Italie?
Quoi de nouveau? Ben, on va quand même parler du gouvernement Monti, Mario Monti, puisque ça y est, il est cette fois il est définitivement formé. Bon, ça n'a pas été très long, finalement, la formation de ce gouvernement de transition, on va l'appeler comme ça, malgré la pression européenne, même plus européenne, maintenant on peut dire la pression du tandem de l'Union européenne bien connue, qui voulait faire accélérer les choses pour que Monti forme son gouvernement en une journée. Il a fait comprendre que ce n'était peut-être pas très sérieux. Donc il l'a formé en 3 jours, on va dire, avec évidemment l'aval du président de la République, M. Napolitano. Bon, alors ce gouvernement, évidemment, hein, ce n'est pas un gouvernement qui va révolutionner le monde actuel et changer le système actuel. C'est un gouvernement de technocrates ou de techniciens, suivant l'appellation qu'on veut bien leur donner. Alors c'est un gouvernement qu'on peut dire rétréci, hein, puisqu'il a 18 membres. Monsieur Monti étant à la fois président du Conseil et puis en charge de l'économie et des finances. C'est un gouvernement très masculin, puisqu'il y a à peu près 17% de femmes, 16,6% exactement. Trois femmes, mais enfin, ceci dit, c'est la moyenne des gouvernements européens.
Mais elles sont à des postes importants.
Par contre, voilà, c'est ça qui est surprenant, enfin, surprenant.
L'intérieur.
Dans la décision. L'intérieur.
La justice.
La justice, oui, l'intérieur qui est tenu par Anna Maria Cancellieri, qui était préfet. La justice par Paola Severino, qui, elle, était avocate. Et puis, effectivement, le troisième gouvernement, troisième portefeuille, qui est...
Les pari opportunités.
Voilà.
Ministère de l'égalité. Quoi.
L'égalité qui intègre pas mal de choses, dont les retraites, notamment. Elle est en charge des retraites. Qui est donc Elsa Fornero, qui était économiste, qui est une grande économiste. Alors sinon, on disait que c'était un gouvernement très technique. Celui qui est à côté de Monti pour le développement économique, Corrado Passera, est un PDG d'une grande banque italienne. Il a été d'ailleurs dans plusieurs banques italiennes. À la Défense, il y a un amiral en retraite, Gianpaolo Di Paola. Et qu'est-ce qu'on peut citer encore? L'ambassadeur aux affaires étrangères, qui était l'ambassadeur à Washington et chargé des affaires étrangères au gouvernement, pardon, Giulio Terzi. Et il y a quelqu'un de bien connu qui est Andrea Riccardi, qui est pratiquement le seul qui était connu, enfin tout au moins de nous, puis je crois que beaucoup d'Italiens d'ailleurs, et qui était le fondateur de la communauté San Egidio. Voilà, sinon on pourrait citer d'autres ministres aux affaires européennes, Enzo Milanesi au tourisme au sport, Piero Gnudi, Fabrizio Barca au territoire. Mais après, ce qui est surtout intéressant, c'est que, oui, j'ai oublié de dire que depuis hier, il y a aussi les secrétaires d'État.
25 secrétaires d'État.
Au lieu de 40 hein, dans le gouvernement précédent. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement? Évidemment, pas de miracle, mais certains voulaient des élections anticipées. D'autres disent, oui, mais Monti, c'est encore un grand libéral et ça ne va pas changer grand-chose au système. Oui, bien sûr, mais dans le contexte actuel, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand choix non plus, je pense. Est-ce qu'il fallait, malheureusement, selon la formule, il fallait peut-être arrêter que les marchés s'excitent, ce qui les arrête d'ailleurs moyennement. Par contre, ce qui est quand même curieux, c'est que maintenant, il n'y a plus de réunions à deux, il y a des réunions à trois. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'Italie est redevenue crédible. Et il y a des réunions à trois entre Merkel, Sarkozy et Monti. Ce qui, très honnêtement, pour le reste de l'Europe, n'est pas tout à fait normal. Parce que ni le duo et ni le trio.
Ni le duo, ni le trio. C'est insupportable.
C'est insupportable.
En particulier pour les petits pays de l'Europe qui sont rentrés récemment.
Ce qui va poser pas mal de comportements. Un petit peu amer, parce qu'aigri, on va dire, parce que c'est pas logique. Et puis le système continue à être ce qu'il est, c'est-à-dire avec une débilité parfaite au niveau financier, c'est-à-dire qu'une banque européenne qui ne prête pas aux pays, même s'ils ont besoin des besoins. Et donc ils vont sur des marchés privés. Les marchés privés fonctionnent par cotation, donc avec les fameuses agences de cotation, si le pays est mal coté. D'ailleurs, mal coté, des fois, on se demande même pourquoi, parce que quand on compare les pays dans leurs résultats économiques, sans vouloir en privilégier l'un ou l'autre, les résultats économiques de l'Italie, à part la dette qui est plus forte que celle française, tous les autres facteurs sont même plutôt mieux que ce qu'est la France. L'Espagne, qui a 22% et demi de chômeurs, commence juste à être attaquée. Alors, économiquement, elle est quand même très mal. L'Allemagne n'est pas bien mieux que la France. Il faut savoir quand même qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIG, qu'il y a des tarifs, il y a des salaires horaires à 2,90 €, qu'il y a une démographie qui n'est pas en hausse, loin de là. C'est absurde. C'est d'autant plus absurde que la Banque Centrale Européenne ne prête pas au pays, mais prête aux banques qui prêtent au pays. C'est complètement débile. Quoi. Ouais, ouais. Hier, il y a eu un appel au peuple en Italie par des souscriptions d'emprunts italo-italiens. Et assez incroyablement, beaucoup d'Italiens sont allés les souscrire, avec exemple donné par les footballeurs. Ils ont peut-être les moyens de souscrire.
Ils ont les moyens quand on les achète plusieurs dizaines de millions.
Il y a peut-être moyen finalement de souscrire quelques contrats, enfin quelques emprunts. Voilà, donc ça a l'air de. Par contre. Mais c'est peut-être symbolique au niveau de la réaction, c'est-à-dire, bon, on essaye de voir ce qu'on fait pour l'instant, et puis après, bon, on espère qu'il y aura des jours meilleurs, mais sous quelle forme, comment, est-ce que c'est les prochaines élections, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que le gouvernement ne comprend aucun politique.
Absolument aucun.
D'ailleurs, et c'est ambigu aucun, mais intéressant.
Aucun, puisque certains avaient été courtisés, on va dire, par des partis politiques, ils ont toujours refusé.
Des gens comme D'Amato, comme Amato, qui était. Qui aurait pu être un bon ministre.
Tout
mais
à fait.
Alors, la Ligue et le PDL, le Parti de la Liberté, ont attaqué pour un secrétaire d'État d'Andrea parce qu'il avait été déjà ministre sous Prodi.
Voilà.
Ils ont dit c'est un politique, c'est un politique de gauche, c'est pas admissible, etc. Ils l'ont violemment attaqué. Bon, il a même été défendu par Berlusconi qui a dit que
Berlusconi
Monti était bien parti.
Qu'il fallait absolument pas l'attaquer mais le soutenir.
Oui, ça dépend. Un jour il dit ça.
Il a perdu. Mais il a peut-être d'autres soucis là en ce moment aussi.
Il a d'autres soucis. Il a ses procès.
Enfin, il a des rendez-vous à assurer, là, à respecter.
À Milan. Mais ces procès, il fait durer le procès sur l'affaire Mills.
Bien sûr.
Parce qu'en février 2012,
On tombe,
il y a prescription si le jugement n'est pas rendu. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il a toujours fait. Il fait traîner. Et puis en février, on dira, non, c'est pas allé jusqu'au bout. Donc c'est pas allé en cassation. Donc on arrête. Prescription.
Voilà.
Par contre, les deux autres procès, il n'y a pas de prescription avant 2013 ou 2014.
On verra. Disons que pour l'Italie, l'hémorragie, il fallait peut-être un peu l'arrêter. Là. Enfin, l'hémorragie dans les marchés, parce que c'est quand même complètement fou. Je ne sais pas si ça l'arrêtera. C'est encore une fois sûrement pas un gouvernement qui va révolutionner le pays et le changer sur des tas d'aspects. Mais c'est sans doute difficile de faire autrement que de mettre un gouvernement de techniciens, de technocrates, dans le contexte, bien entendu, dans le contexte.
Oui, et puis il y en a beaucoup qui ne tenaient pas à ce qu'il y ait des élections anticipées,
non.
Parce qu'ils avaient, ils sont,
honnêtement,
ils n'auraient pas fait leurs 5 ans de ministère. Or, si on, pour les nouveaux élus, si on ne fait pas 5 ans d'élections, de députations, on n'a pas la pension.
D'une part.
Et donc,
et puis,
il faut aller jusqu'au bout.
Et puis, dans ce contexte, faire des élections rapides, monter des élections rapides, avec une campagne qui aurait sans doute été très dure, très lamentable. On commence à en avoir des échos chez nous. On voit bien ce qui se passe. Ça va être d'une tristesse. C'était peut-être pas la meilleure c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est sûr.
Non.
Et puis je pense que beaucoup de partis politiques, on se demande même s'ils ont envie, dans cette situation, de gouverner un pays. C'est quand même pas simple.
Mais si Monti réussit un minimum de choses, ça sera positif de constater que des gens qu'on ne connaissait pas, personne ne connaissait pratiquement. Monti a des commissaires européens, mais c'est pas des postes
connus par des spécialistes,
très populaires, oui, c'est sûr. Si un gouvernement comme ça réussissait à faire des choses, ça permettrait de poser des problèmes au niveau des prochaines législatives, où les gens se diraient quand même, il vaudrait peut-être mieux qu'on change.
On va peut-être écouter, parce que la crise finalement dont on parle actuellement et qui malheureusement est réelle, c'est pas nouveau non plus. Le monde financier, c'est pas nouveau non plus.
Non, on va écouter une chanson d'ailleurs.
Qui date un peu d'ailleurs.
De Lucio Dalla. Elle est de 1975, c'est après la première crise du pétrole. Et alors il l'a fait avec Roberto Roversi, il avait fait 3 disques avec lui. Et il fait dans Anidride Solforosa une chanson qu'il appelle « La bourse des valeurs ». Alors, c'est une chanson étonnante. C'est une énumération d'entreprises italiennes, ou quelquefois imaginaires. Et puis, il y a de temps en temps un type qui dit « Je vends, j'achète, je m'en vais au Portugal jusqu'à ce que ça remonte, etc. » Et c'est sur une chanson, une musique d'époque. Mais c'est assez amusant. Imaginons aujourd'hui quelqu'un qui ferait une chanson sur nos grandes entreprises, nos grandes multinationales, en laissant simplement entendre que c'est un marché, qu'à la bourse, on achète, on vend en fonction des intérêts de celui qui achète.
Alimentari, alimenti, meno 5, meno 50 così. Butto, hai meno 10, buon ferraresi, motte, ridagna, zuccheri, roba, 45 più. Cementieri, eternit, i 3 cementi unici, meno 90, più 30, 11 più. Immobiliare, condotte d'acqua, sono 9 più. Girardini 79, sanamento 30 più. Cogi 18. Certosa 60, i beni stabili a 20 più, a 20 più. I finanziari, Bastogi Agricola Centrale, Gimba 30.000, General Free. I FIP private, i FIL, Invest, i FIL, Invest a più 50, Nitel, Fumare, più 1 e un quarto, Saron, Smet. Ani Brioschi, Erba, Itel, Gas, Perlier, Pirel, Romianca. Più 2,50 Vendo le bastoci, compro Commito, Oras. Vendo Ricciardi Nori, compro Button, e sì. Cogito via, in un amen, compro Sifa e Pisac. Butto la segna viscosa, prendo smeriglio e cire, non ho contanti, vado al riparto finale nel mese di novembre. Sarò nel Portogallo, se liqui gas o Enel, dalmine folche fil, stamattina non crescono. Se liqui gas o Enel, dalmine folche fil, stamattina non crescono. Capsula, dottor, no. Capsula, dottor. Don't go.
La bourse des valeurs de Lucio Dalla. Je ne sais pas si ça représente l'atmosphère de la bourse, mais on imagine assez bien.
C'est... Par contre, c'est une atmosphère très tendue.
Oui.
Comme les salles de marché, les tables des marchés, c'est très, très tendu. Les gens sont très énervés, très excités. Ils doivent réagir en millième de seconde.
Oui,
c'est quelque chose d'incroyable.
Oui, ils n'ont pas le temps de réfléchir.
C'est intéressant d'aller le voir parce qu'ils travaillent avec des écrans. Ces écrans ont des cotations et en même temps des informations. Alors, avec les fuseaux horaires, ces informations tournent. Et les informations peuvent être réelles ou peuvent être fausses. Parce que leurs écrans, ils ne sont pas là pour vérifier si l'information est vraie ou fausse, puisqu'elles émanent d'agences de presse. Et une information peut complètement modifier le cours d'une valeur, par exemple. Et après, il y a ces fameux ordres tournants, c'est-à-dire lorsque, par exemple, un Français s'en va de son travail, s'il a pris un ordre tournant, cet ordre va tourner la nuit. Et quand la cotation supposée être souhaitée est atteinte, l'ordre passe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle de possible, puisqu'il passe en automatique. C'est un monde très particulier, mais très stressant aussi, il faut quand même le reconnaître.
C'est ce que la chanson a voulu dire.
Voilà. Bien. Alors, il y a d'autres choses moins stressantes quand même.
Oui, on vient à l'actualité locale.
Voilà, locale avec l'Italie, bien sûr. Bon, on va d'abord parler du 10 décembre à Moubec, de samedi 10 décembre à Moubec. Alors, vous savez qu'il y a une année Italie dans l'Isère, l'année de l'Italie en Isère, sous l'égide du Conseil général. Alors vous pouvez, parce qu'il y a des tas de concerts, de manifestations, j'allais dire, surtout dans le sud Isère, enfin dans celles qui sont officielles. Et plutôt que de toutes vous les citer, je pense qu'on va conseiller à nos auditeurs d'aller voir le site www.isere.fr ou de téléphoner au 04 57 58 89 11, 04 57 58 89 11. Mais s'il se passe des choses en Sud-Isère, il se passe aussi des choses en Nord-Isère.
Et le Conseil général, qu'on a pourtant aidé à faire son exposition Un air d'Italie, a complètement oublié le Nord-Isère. Ils n'ont même pas cité dans la liste des associations ou des organismes de la fin de la brochure, ils n'ont même pas cité l'INIS, qui a passé des heures à les aider. Et j'ai trouvé que cet oubli était un petit peu étonnant.
Pour être honnête, ils ont cité individuellement deux, trois d'entre nous, mais par l'association. Jean Guichard, Alain Pangan, Louisette. Mais je ne parle pas du programme, je parle du bouquin qui a été fait sur l'exposition.
Oui, je n'ai pas vu le bouquin,
mais
sur le programme.
Mais en tant qu'association, absolument pas. Sur le programme non plus, d'ailleurs.
C'est stupéfiant.
Sur le programme non plus.
Est-ce qu'ils penseraient par hasard qu'on n'est pas. On n'est pas susceptible d'aider M. Valigny à devenir ministre de la Justice après les prochaines présidentielles, éventuellement, ce qui est manifestement son but.
Oui, enfin, même s'il a monté quand même tout ça avec M. Argento, qui est son grand ami, mais qui est son opposant politique. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut effectivement se poser des questions par rapport à la masse d'heures et de travail fournies dans le Nord-Isère.
Alors, dis-nous ce qui va se passer dans le Nord-Isère.
Le Nord-Isère, parce qu'il y a quand même quelque chose. On va se faire un programme du Nord-Isère, tiens. Alors, il va commencer le 10 décembre à 20h, le samedi 10 décembre 2011 à 20h, à la salle des fêtes de Maubec, puisque Italie Nord-Isère, on aime bien, nous, travailler avec toutes les communes environnantes, même si notre siège est à Bourgoin-Jallieu. Et donc, on a une rencontre musicale avec Alessandro et Roberto Tombesi, qui vont nous interpréter des chants à musique de Venise et de la Vénétie. Bon, Roberto, tout le monde le connaît maintenant dans notre région. C'est le fondateur du groupe Calicanto, qui fêtait ses 30 ans, d'ailleurs, vendredi au théâtre de Padoue, où le théâtre était plein. C'est un groupe qui a tourné dans beaucoup de pays d'Europe, même aux États-Unis, Canada, qui a eu en France le prix de l'Académie Charles Cros 2006. Et Roberto, qui était en même temps le directeur artistique du Festival international de musique et culture populaire d'Orovigo, qui a fêté son 10e anniversaire cette année. On espère qu'il continuera. Donc Roberto, on ne le présente plus. Et là, il va venir en duo avec Alessandro Tombesi, qui n'est autre que son fils, qui a 17 ans, qui est un musicien quasi déjà expérimenté, qui fait des études de musique depuis longtemps, et qui joue de la clarinette, du piano, et dont l'instrument préféré, disons, est la harpe. Il a composé beaucoup de... Il compose beaucoup, il a même composé pour le groupe Calicanto, et il vient de sortir son premier album, lui aussi, Barene, qui a eu tout de suite beaucoup de succès et qui a même été récompensé par plusieurs prix en Italie, notamment sur les premiers albums d'un compositeur. Donc ils vont venir tous les deux sur la scène de Maubec le 10 décembre à 20h. Il n'y a pas de réservation, venez un petit peu avant 20h si vous voulez avoir de la place.
Ou on peut téléphoner.
On peut téléphoner
à l'INIS pour réserver des places.
Au 04 74 93 41 28, 04 74 93 41 28. Et le prix d'entrée est 8€, gratuit pour les enfants. Et ils seront rejoints sur quelques morceaux par le groupe Les Migrants de Bourgoin. Alors pourquoi le groupe Les Migrants ? On nous dit, mais pourquoi un groupe, pas plusieurs groupes de Bourgoin ? Non, tout simplement parce que ce groupe est venu cette année à l'invitation de Roberto Tombez pour répondre à son invitation. Ils sont venus aux apéritifs musicaux et ils ont eu un vrai succès. Et ils ont pu déjà d'ailleurs jouer 2-3 morceaux avec Alessandro Tombez, donc c'est un juste retour, on va dire, de sympathie et peut-être de projets futurs. Voilà. Franchement, je pense que Jean sera d'accord avec moi. C'est un déplacement qui n'est pas très long pour Norisère aller à Maubec. Surtout, vous ne le ferez pas à vélo ce soir-là. Donc, allez-y, parce que ce sont vraiment deux grands musiciens et deux personnes absolument délicieuses. Et les gens du groupe de l'Immigrant aussi, d'ailleurs.
Ceux qui avaient vu le spectacle qu'ils
du
avaient
théâtre,
donné
ouais.
Un mois avant l'incendie du théâtre.
Ouais, en
2009. Avaient été frappés parce qu'ils ne connaissaient pas le groupe Calicanto et tout le monde était stupéfait.
La salle était debout à la fin du spectacle.
Ah oui,
c'est
vraiment
une grande, grande qualité.
C'est des grands musiciens et de grands spécialistes aussi de la recherche et de la composition de chansons populaires.
Et ils continuent. Ce qui est toujours étonnant, c'est qu'ils composent eux-mêmes, comme je le disais, mais dans les collectages, ils réinterprètent les collectages à leur façon. Et dernièrement, à Rovigo, le groupe a joué avec un orchestre philharmonique qui, lui, a réinterprété les groupes de Calicanto. Donc, du collectage à l'orchestre philharmonique, c'est assez extraordinaire. Quoi. Ça fait tomber tous ces mythes de musique populaire, de musique savante.
Absolument, oui.
Voilà. On reste peut-être dans le Nord-Isère. Je voulais évoquer brièvement une rencontre qui vient d'avoir lieu ce week-end à Saint-Marcel-Bel-Accueil entre une délégation de Saint-Marcel-Bel-Accueil, son maire, un premier adjoint, les associations du patrimoine local, dont le président est M. Greco, M. Gagnou le maire, M. Bailly le premier adjoint, qui ont reçu donc une délégation de Gosaldo. Alors Gosaldo, c'est dans la province de Belluno, en Italie, donc dans les Dolomites. Ils ont reçu donc M. Dalefeste, qui est le maire, M. Bressan, qui est l'adjoint, et Mario Pongan, mon homonyme, qui s'occupe d'associations dans le village. Alors pourquoi cette commune ? Tout ça rejoint un peu notre travail sur l'immigration, parce que c'est une commune dont les gens, commune de montagne, pauvres dans les années de 1900-1930, et qui ont beaucoup émigré à l'étranger, que ce soit en Argentine, au Brésil, en Europe aussi, Belgique, et beaucoup en France. Et beaucoup de cette commune, de gens de cette commune étaient des chaisiers qui ont tourné dans toute notre région. Et puis certains faisaient les allers-retours et n'ont jamais immigré. Et d'autres, après tous ces allers-venus, et sous le fascisme notamment, sont venus définitivement s'installer en France. Alors c'est à la fois affectif, à la fois historique et aussi... une rencontre qui aura des projets derrière. J'en suis pratiquement persuadé, vu l'ambiance qui a régné pendant ce contact. Et tous ont été bien d'accord pour déjà parler de l'avenir, sans faire un jumelage ronflant, où on signe tout de suite des grands accords et puis rien ne se passe.
Pour le moment, ils veulent faire des échanges.
J'ai beaucoup entendu parler d'écoles, d'associations culturelles ou sportives ou autres. pied à pied, des cours de français d'un côté, d'italien de l'autre. Et comme par miracle, d'ailleurs, on a eu d'un seul coup nos plusieurs personnes de Saint-Marcel qui viennent s'inscrire au cours d'italien. Donc, bah, tout ça est bien, bien sympathique et bien concret et nous éloigne de tout ce dont on parlait en début d'émission.
Absolument.
Voilà, donc un bel accord, pour le moment on va le dire comme ça, un bel échange entre Saint-Marcel, Bel Accueil et Gozaldo en Italie.
Et on écoute une chanson pour le...
On va écouter justement un morceau d'Alessandro Tombesi qu'il a composé en s'inspirant d'un livre de Rigoni Stern, qui lui aussi était de Vénétie. Et le titre de ce morceau, qui est un instrumental, est « Aspettando l'alba ». Il est accompagné par son frère, par son père, pardon, par son oncle et par Alessandro Arcolin aussi.
En attendant l'aube. Voilà, Alessandro Tombesi.
Alors, dans l'actualité à l'harpe, oui, et dans l'actualité italienne, on va essayer de chaque fois maintenant, d'ailleurs on vous l'a promis, d'avoir une rubrique littéraire maintenant.
Absolument.
Un grand spécialiste.
On va rendre compte de quelques bouquins.
Voilà, alors là, ce n'est pas tout à fait l'actualité, mais il me semblait important qu'on en parle ce soir. Je vais commencer, si vous permettez, par une lecture. Très beau texte, je trouve. Quiconque a connu l'aventure de doubler le cap des 30 ans sait combien il a été fatigant, âpre et excitant d'escalader la montagne qui, des pentes de l'enfance, monte jusqu'à la cime de la jeunesse, et combien a été rapide comme une chute d'eau, un vol géométrique d'ailes dans la lumière, quelques instants et, hier j'avais les joues fraîches des 20 ans, aujourd'hui En une nuit, les trois doigts du temps m'ont effleuré, préavis du petit espace qui reste et de la perspective finale qui attend inexorablement. Première, mensongère terreur des 30 ans. Qu'avais-je fait ? Avais-je gaspillé mes jours, insuffisamment joui du soleil et de la mer ? Ce n'est que par la suite, à l'âge d'or des 50 ans, temps plein de force, calomnié par les poètes et par l'état civil, ce n'est que par la suite que l'on sait combien de richesses il y a dans les oasis sereines où l'on se retrouve avec soi-même, seul. Mais cela vient plus tard. Alors l'anxiété de perdre l'hier et le demain me prit avec force. Que faisais-je dans ce bureau ? Quelle signification avait cette recherche de mots et tous ces écrits, poèmes, notes, brefs récits ? Étais-je, sans le savoir, en train de suivre le chemin de Béatrice qui, pour avoir une consistance à ses propres yeux et aux yeux des autres, s'était composée une statue sacrée de veuve inconsolable, belle et respectée ? Étais-je en train, avec la même implacabilité et volonté qu'elle, d'élever inconsciemment un temple à l'intérieur de moi-même ? Et mourrais-je comme elle plutôt que d'écarter le subtil poison de la tradition ? Donc ce texte a été écrit par Goliarda Sapienza et il est extrait de L'art de la joie qu'elle a écrit entre 1967 et 1976. Et ce qui est curieux, c'est qu'en Italie, le roman a connu des fortunes diverses. Il a dû attendre une première publication en 1998, 2 mois après la mort de son auteur. Puis une édition par Stampa Alternativa en 2006 et enfin, en 2009, chez Einaudi.
Voilà, qu'il a réédité. Qu'il a réédité. Et là, à nouveau, on le retrouve.
Je pense qu'on peut le retrouver là.
Pas dans toutes les librairies.
Mais pas dans toutes
mais
les
on
librairies.
Mais on le retrouve depuis cette nouvelle publication.
Voilà. Et chose curieuse, c'est en France qu'il a connu un immense succès. C'est Viviane Amy qui l'a publié en 2005. Le titre français reprenant le titre original, L'art de la joie, avec une traduction de Nathalie Castagnier. C'est un très gros livre de 630 pages. Et dont le succès en France a été assuré essentiellement par le bouche à oreille. Je n'ai pas révisé les chiffres, mais je pense qu'il a atteint les 200 000 exemplaires, ce qui est considérable.
Et on en a peu parlé.
On en a peu parlé.
Les critiques, non.
Les critiques, si. Certaines critiques littéraires.
Oui, mais...
J'ai un petit extrait là quand même, parce que Le Monde des Livres, par exemple, à l'époque.
C'est vrai.
Le Monde des Livres. C'est une incontestable découverte, un survol phénoménal de l'histoire politique, morale et sociale de l'Italie. Sous le regard d'une narratrice sicilienne merveilleuse dans ses élans parfois rationnels, parfois passionnels, et c'est la révélation d'un tempérament d'écrivain hors pair. Alors c'est l'histoire de Modesta qui naît le 1er janvier 1900 dans une famille très pauvre. Elle va affronter les tourmentes du siècle en restant une femme étonnamment libre, souvent libertaire, parfois libertine. Petit à petit, elle échappe à sa famille, elle échappe au couvent. Elle devient princesse après avoir épousé un débile mental qui est un richissime héritier de l'aristocratie sicilienne. Toute sa vie, elle se bat contre les tabous, les convenances, elle multiplie les relations amoureuses et revendique tout simplement le droit au bonheur. Donc l'auteur, Goliarda Sapienza, est né dans une famille sicilienne, socialiste, anarchiste, en 1924 à Catane. Son père Giuseppe est avocat syndicaliste, fut l'animateur du socialisme sicilien jusqu'à l'avènement du fascisme. Sa mère, Maria Giudice, figure historique de la gauche italienne, dirigea le Grido del Popolo, dont Gramsci était rédacteur en chef. Comédienne, elle a travaillé sous la direction de Luchino Visconti, Alessandro Blasetti ou encore Francesco Maselli. Elle a joué notamment dans Senso de Luchino Visconti. Elle a également écrit un cycle autobiographique. Et à 70 ans, elle commence à enseigner la comédie au Centre expérimental de cinématographie de Rome. Elle est morte en 1996 à Rome. Donc L'art de la joie, Goliarda Sapienza, Viviane Amy, je crois que c'est un livre vers lequel il faut se précipiter.
Et demander à son libraire. Alors, deux autres livres. L'un en italien qui vient de paraître et qui est intéressant parce que dans la conjoncture économique actuelle, on se rend compte d'un certain nombre de réalités. L'auteur est le procureur national antimafia, Pietro Grasso, qui écrit le livre avec un journaliste de Repubblica, Enrico Bellavia. Et il fait le titre est « Soldi sporchi », sous argent sale. Et il fait le bilan de l'argent sale qui est recyclé dans l'économie. Et il fait les comptes, il dit sur le plan mondial, ça représente 5% du produit intérieur brut de la planète, soit quelque chose entre 600 et 1500 milliards, rien que pour les États-Unis. Entre 600 et 1500 milliards. Alors, incroyable. Quand on nous dit qu'il manque 8 milliards pour boucler un compte, on est un peu rêveur, quoi. Parce que là, il y a un argent sale recyclé qui, évidemment, ne rapporte rien à l'État. Et il explique comment ça se passe, qui recycle. Il dit recycler est un art, mais qui sont les artistes? Et il y a des artistes très, très experts qui ne sont pas du tout assimilables aux boss mafieux qu'on dit arrêter, qui sont des gens rustiques, qui se nourrissent de rien du tout, qui mangent de la ricotta et de la chicorée. Mais c'est des gens très bien, en costume trois pièces, cravate, cultivés.
On peut manger de la ricotta et de la chicorée, ne pas être mafieux. Non, mais c'est pour les auditeurs.
Non, mais ça donne, on donne une image du boss mafieux comme un personnage rustique. Non, des gens parfaitement intégrés dans la société.
Bien sûr, mais il y a des...
La meilleure.
On connaît, cette économie, c'est plus compliqué que dire économie souterraine d'ailleurs.
Parce que c'est pas souterrain finalement.
Non, parce que c'est... Et oui.
Donc voilà, un livre qui sera, peut-être, j'espère, qui sera traduit, Paolo Grasso, Argent sale, qui vient de sortir. Et puis un deuxième livre, alors lui qu'on peut lire et qu'il faut lire, de Corrado Augias.
Bon journaliste.
C'est un grand journaliste italien qui connaît très bien le français et qui vient de publier chez Flammarion, enfin on vient de traduire de l'italien, c'est Anaïs Boccobza qui a traduit dans la collection Café Voltaire chez Flammarion, l'Italie expliquée aux Français. Donc pour nous c'est une chose importante et il part de la question, mais on me demande toujours, dit-il, comment les Italiens ont pu porter au pouvoir une crapule comme Berlusconi? Comment ça a été possible? Alors, il essaye d'expliquer comment fonctionne l'Italie. Il dit d'ailleurs, dès le début, il y a deux Italies. Il y a d'une part un pays d'excellence pour la mode, le design, l'architecture, la musique, certains sports, la cuisine, le vin et une qualité de vie qui reste globalement bonne malgré tout. De l'autre, le pays du désordre, d'une vie politique confuse et inefficace, d'une corruption diffuse, d'une criminalité agressive et d'un Sud en état chronique de sous-développement. Alors il se demande laquelle est la véritable Italie. Elles sont toutes deux réelles. Il n'y a pas une Italie, il y a des Italies. Alors il va essayer de les décrire un peu en parlant de l'histoire de l'Italie contemporaine depuis l'arrivée en particulier du berlusconisme au pouvoir. Il s'est dit, mais comment ce personnage qui est un aventurier, sans aucun intérêt ni aucune compétence dans le domaine politique, comment a-t-il pu débuter dans la vie politique en 1994 il avait débuté en... Il était né en 1936. Il dit avoir étudié à la Sorbonne, bien que son nom n'apparaisse pas dans les archives. Et il a commencé en construisant des maisons. Avec quel argent, lui qui était chanteur de cabaret, avec l'argent que la mafia du Sud a transféré à cette époque à Milan, parce que c'était plus intéressant d'investir dans l'immobilier à Milan que dans les petits villages de Sicile. Voilà, il y a ça. Il fait une comparaison à un moment entre Berlusconi et Mussolini. Il dit « Si Mussolini a cherché en vain à changer la nature des Italiens, Berlusconi a fait le contraire. Il a titillé leurs pires aspects, il en a justifié les défauts en leur donnant une importance comparable à l'immensité de sa richesse. » C'est intéressant comme remarque. Et puis, il raconte des épisodes qui nous intéressent. Comment Berlusconi a pu pénétrer en France. Et il raconte, entre autres, la rencontre de Berlusconi en 1985 avec Mitterrand. Comment Berlusconi a séduit...
Au piano, non, c'est ça ?
Mitterrand, oui, ouais, lors d'une réception à l'Élysée, en se précipitant sur un piano et en lui chantant une chanson...
Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il a séduit beaucoup de monde.
Mais absolument.
En Italie, bien sûr, mais en France aussi. Hein.
Et puis, il a eu une influence directe sur l'organisation de la télévision, de la télévision française. Alors, il fait aussi beaucoup de remarques sur des choses importantes qui déterminent la vie italienne, la famille, par exemple, l'importance de la famille. Il dit aussi, l'un des éléments essentiels de l'histoire de la péninsule est la religion. Et il dit, avec l'héritage de l'Empire romain, le Vatican, l'Église catholique, s'est instauré comme pouvoir, mais en même temps, un pouvoir qui n'avait pas les moyens d'unifier la péninsule. Et donc ça a été, Machiavel l'avait déjà très bien montré, un secteur de régression de la vie politique italienne, qui s'est augmenté au moment de la contre-réforme. Et il fait une analyse très intéressante de la contre-réforme. Il analyse l'influence des jésuites dans la vie italienne et il montre très bien comment Berlusconi s'est octroyé le soutien constant du Vatican jusqu'en avril.
Jusqu'à quelques mois, finalement.
Jusqu'en avril 2011,
oui, c'est ça.
Finalement, où le Vatican, effectivement, s'est dit, oula, il faudrait peut-être arrêter. Et il termine son livre en parlant de terrorisme doux, de dictature, de despotisme, pardon, doux. Il dit le régime italien, c'est un despotisme. Mais ce n'est pas un despotisme qui réprime, il ne le fait que très peu. Pour s'imposer, ce despotisme n'a besoin ni d'un coup d'État, ni d'une police secrète qui frappe à la porte à 4 heures du matin. Le despotisme doux est composé à la fois de bienveillance, de complaisance, de séduction, de la diffusion d'informations fausses ou tronquées, de charisme de la part de celui qui veut l'imposer et d'une passivité substantielle des citoyens. Dans la société contemporaine fondée sur la force des médias et des images, ce despotisme se présente comme une mixture meurtrière où tout se mélange. On se demande quelquefois s'il ne parle pas de la situation française.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que c'est l'un des passages qu'on pourrait
absolument
appliquer. Alors, à beaucoup de pays.
Il souligne quand même qu'il y a actuellement dans la passivité qu'il évoque, qu'il y a actuellement une volonté de manifestation très importante de deux catégories, en particulier les jeunes et les femmes. Et c'est vrai que c'est important. Alors, on écoute une chanson de Celentano qui a été écrite il y a déjà 3-4 ans. La situation n'est pas bonne. C'est une chanson pleine d'humour. La situation politique n'est pas bonne, la situation économique n'est pas bonne, la situation de mon lavabo n'est pas bonne, la situation de mon amour n'est pas bonne, la situation internationale n'est pas bonne, la situation de ma sœur n'est pas bonne, la situation des petits chiens n'est pas bonne, la situation, ma situation n'est pas bonne, la situation politique n'est pas bonne, la situation spatiale n'est pas bonne, la situation de notre terre n'est pas bonne, la situation de mes cheveux n'est pas bonne, etc.
Par contre, il doit être plus facile de changer son lavabo que de changer la politique.
Absolument. Et Berlusconi a montré qu'il était facile de changer ses cheveux aussi. Il se les a tous faire piquer pour paraître jeune. Celentano, la situation n'est pas bonne.
La situation politique non est buona. La situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione del mio amore non è buona. Da me a te cosa che ci unisce c'è. Da me a te, qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo e l'amore che ora abbiamo. La situazione internazionale non è buona. La situazione di mia sorella non è buona. La situazione dei piccoli cani non è buona. La situazione, la mia situazione non è buona. Da me a te, qualcosa che ci unisce c'è. Spaziale non è buona. La situazione della nostra terra non è buona. La situazione dei miei capelli non è buona. La situazione internazionale non è buona. La situazione dell'acqua non è buona. La situazione quando mi baci non è buona. Ma la più grande sciagura sono gli architetti. Da me a te, qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te, qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo e l'amore che ora abbiamo. Come la casa che costruiamo, come la terra che calpestiamo, come la notte in cui dormiamo, come la notte che non dormiamo, e l'emozione che inventiamo, la primavera che immaginiamo, come l'aria che respiriamo, come il figlio che come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo e l'amore che ora abbiamo come l'aria che respiriamo come il figlio che aspettiamo.
Voilà, la situation politique n'est pas bonne, nous dit Celentano. Alors revenons à ce qui se passe dans le Nord-Isère dans cette année d'Italie. L'INIS organise une série de manifestations sur les Abruzzes. Alors la première manifestation sera une conférence donnée au lycée Gambetta le 19 janvier à 20h. On en reparlera, mais retenez déjà la date, 19 janvier. C'est Jean Guichard qui fera la conférence sur les Abruzzes, qui est une région qu'il connaît assez bien. Et ça sera en préparation d'un projet de voyage dans la région des Abruzzes en mai 2012. Pourquoi en mai? Pourquoi pas plus tôt, comme d'habitude? Parce que les Abruzzes, c'est une région de montagne et le chef-lieu est à 700 mètres, entre 700 et 800 mètres. Donc, en avril, on risque vraiment le mauvais temps, la neige même, et on risque de ne pas pouvoir aller dans les deux massifs montagneux qui sont des choses les plus intéressantes des Abruzzes, le Gran Sasso et la Maiella, qui sont les deux sommets les plus hauts de la chaîne, de toute la chaîne des Apennins, et qui sont de grands centres, par ailleurs, de sports d'hiver maintenant. Mais on visitera aussi, évidemment, toutes les richesses des Abruzzes. C'est une région assez extraordinaire, qui a été toujours une région... C'est une région méconnue, en particulier des Français, qui ne vont pas dans les Abruzzes. Les agences n'en parlent jamais, ou à peu près.
Ils ne la situent pas, d'ailleurs.
Non, tout le monde nous dit, mais c'est où les Abruzzes? C'est donc à l'est de Rome, c'est au niveau de Rome, mais côté Adriatique. Et la richesse des Abruzzes est très, très grande, parce que ça a été, depuis bien avant les Romains, ça a été une terre de communication entre le nord et le sud, c'était la grande zone de passage. Alors c'est actuellement des comtés dans l'Italie du Sud, mais c'est en fait entre les deux. Et ça a été occupé par des peuples qui ont laissé des traces importantes, que les Romains ont eu de la peine à vaincre entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, dans des guerres qui ont été souvent très dures, les Mars, les Samnites, etc. Et qui ont laissé des traces culturelles très, très importantes. Et puis, au Moyen-Âge, ça a été une terre où, compte tenu du relief, de l'isolement des montagnes, ça a été une terre de refuge des plus mystiques parmi les courants chrétiens, et en particulier un lieu de refuge pour tous les courants contestataires de l'Église catholique qui étaient persécutés ailleurs et qui se réfugiaient. Ça a été le cas des Fraticelli franciscains, par exemple, qui ont été persécutés jusqu'à la... On a continué à les brûler jusqu'à la fin du XIVe siècle, et qui se réfugiaient dans des grottes. Il y a énormément d'ermitages dont on verra quelques-uns. Et puis, il y a eu une production artistique qu'on ignore complètement. Il y a des écoles de peinture très belles dont on serait incapable de donner le moindre nom. Et comme c'était une zone frontière, on a construit beaucoup de forteresses. En fait, c'est une région extrêmement intéressante où on espère faire au mois de mai un beau voyage. On va fixer la date définitive en fonction... pour ne pas partir le dimanche des élections présidentielles en France.
On rappelle la date de la conférence, peut-être ?
Alors, la conférence est le 19 janvier à 20h au lycée Gambetta. Entrée par la rue Gambetta.
Absolument, je confirme.
Oui, parce qu'il y a plusieurs entrées.
Et, voilà. Et si possible, sans retard, parce qu'après, l'accès sera fermé.
Après, l'accès sera fermé. Et on va illustrer ça par une chanson une chanson populaire des Abruzzes qui s'appelle Les Abruzzes. C'est une chanson de Carlo Perrone et Nazareno De Angelis qui montre la grandeur du Gran Sasso, de la Maiella et de la mer.
Yeah.
Voilà, alors puisqu'on est dans les Abruzzes, on va y rester.
Avec la recette ?
Avec une recette qui va nous être, on a presque un invité d'honneur, c'est Lorenzo Tucci, qui est un jazzman italien. Et cette recette est extraite du disque jazz, comme disent les Italiens, Al Dente, où les musiciens laissent libre cours à leur talent. Et sur l'autre CD, puisqu'il y a deux CD, énonce des recettes de leur région d'origine. Et lui étant originaire des Abruzzes, il va nous donner une recette des Abruzzes qu'on va vous traduire.
Cari signori, eccoci, vi parlerò di una ricetta fantastica abruzzese e sono appunto gli spaghetti alla chitarra. Indispensabile per la preparazione di questo tipo di pasta l'uso della chitarra, un attrezzo di legno dotato di fili metallici ben tesi, ingrandendola con un mattarello. Tipica dell'Abruzzo, si trova però in vendita in quasi tutta l'Italia, nei negozi di casalinghe artigianali. La pasta alla chitarra può essere preparata sia all'uovo che senza, a seconda del condimento a cui è destinata. Si inizia quindi preparando una sfoglia a base di farina e acqua, o uovo e acqua, e tirandola sottile con il mattarello o con la macchina per la pasta, come per le tagliatelle. Una volta pronta la sfoglia, la si appoggia sulla chitarra e si esercita una decisa pressione con il mattarello. La pasta si troverà così ad essere tagliata dai fili, in metallo appunto, che devono essere ben tesi, vi ricordo, e cadrà sul fondo della chitarra, da dove potrà essere raccolta e spostata in un vassoio infarinato in attesa della cottura. Il condimento sarà con il sugo di agnello, sempre tipico abruzzese. Quindi spaghetti alla chitarra, un cosciotto d'agnello a pezzetti, aglio, due peperoni, alloro, 300 g di pomodori pelati, vino bianco secco, 5 cucchiai di olio d'oliva. In un tegame di terracotta versate l'olio. Fate imbiondire l'aglio con l'alloro. Aggiungere la carne e farla rosolare. Bagnare con un po' di vino bianco, farlo evaporare a fuoco vivace, quindi abbassare la fiamma e salare. Cuocere per almeno un'ora versando di volta in volta un po' di vino. Quando la carne è quasi cotta, aggiungere il pomodoro, peperoni tagliati a listarelle e cuocere a fuoco lento ancora una mezz'ora rigirando bene il tutto. In una pentola con acqua bollente, salata.
Non les spaghetti alla chitarra, la guitare, on joue pas de la guitare en faisant les spaghetti. Non, la guitare c'est un instrument, c'est une planche de bois sur laquelle sont tendus des fils métalliques qui vont permettre, quand on va écraser la pâte fraîche dessus, on va étaler la pâte fraîche en la roulant avec un rouleau, de tailler ces spaghettis en tranches. On vous expliquera ça, vous téléphonerez à l'INIS ou à Couleur FM, on vous donnera la façon de faire ces pâtes fraîches. Donc vous avez des spaghettis faits à la guitare, on prenait des spaghettis pâtes fraîches, un gigot d'agneau en morceaux, de l'ail, deux poivrons, du laurier, 300 g de tomates, pelées bien sûr, du vin blanc sec, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous versez l'huile dans un plat en terre cuite. Vous faites blondir l'ail avec le laurier. Vous rajoutez la viande et vous faites rissoler le tout. Ensuite, vous arrosez un peu de vin blanc. Vous le faites évaporer à feu vif. Puis vous baissez le feu et vous salez. Quand la viande est quasi cuite, vous rajoutez les tomates pelées, coupées en morceaux, ainsi que leur jus, les poivrons coupés en lamelles, et vous faites cuire à feu doux encore une demi-heure en retournant bien le tout. Vous portez à ébullition une casserole remplie d'eau salée et vous procédez à la cuisson des pâtes que vous égouttez ensuite quand elles sont cuites. Vous versez le tout dans un plat en y ajoutant le jus de l'agneau.
Voilà.
Voilà.
Eh bien voilà.
Recette abruzzese. Et on vous expliquera les spaghetti à la chitarra parce que c'est tout un. C'est de l'art quasiment. Là.
Et voilà, pour finir l'année. Donc, bonne fin d'année, bonne fête de Noël.
On a encore une émission.
Ah oui, on a encore une émission au mois de décembre.
Mais bon, on fera une émission.
Voilà.
Festive.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir. À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chanson.
Gastronomie.